Bonjour, là, ben, si j'y suis. Ben, là, je suis au milieu de la manifestation de grande colère des salariés de Continental. Et tous ces salariés, 1120, tous ensemble, se dirigent vers l'Élysée.
Salut Daniel, c'est Philippe de Pau. Alors comme tu peux l'entendre, je ne suis pas tout seul, on est dans la rue, on est à peu près 300, 350. Et on s'est dit que si les manifs en France, elles se voyaient plus, on pouvait peut-être manifester de nuit avec des flambeaux. Alors voilà, de la maternelle à l'université, des enseignants, des chercheurs, des étudiants évidemment, manifestent contre les lois d'Arcos, Pécresse et plus généralement contre la politique de notre cher gouvernement. Alors voilà, il y a quelques cartons qui brûlent devant la préfecture et quelques motos et quelques gyrophares autour de nous. Allez, à bientôt et résistance. Ciao.
Ouais, salut Daniel, salut les ONG, c'est Kevin de Marne-la-Vallée. C'est pour dire qu'en place de grève devant l'hôtel de ville à Paris, se tient la ronde des obstinés depuis lundi midi. Les obstinés sont les étudiants, les enseignants-chercheurs, les athères, les diatos, les profs, quoi. Ils sont obstinés, on veut l'abrogation de la LRU, on veut le retrait du contrat doctoral unique. On veut le retrait du projet de masterisation sur la refonte des concours de recrutement des profs secondaires. Et on tourne en place de grève jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on demande. Donc on appelle tous ceux qui sont sensibilisés à ces questions à venir nous aider dans cette ronde des obstinés place de l'hôtel de ville. Voilà. À plus.
Bah, on est à Saint-Quentin. Là, on revient de la manif. On est dans un troquet en train de se réchauffer. Ceux qui se sont pris des lacrymos, les élèves de 14 ans qui ont été arrêtés par les CRS, ça fait une vingtaine au total, et ça a chargé, voilà. Et on était plus de 100, comme disait TF1, on était 1000 environ, et d'autres ont été manifestés ailleurs, mais ils n'ont pas pu accéder au lieu. Voilà, on était nombreux, et en tout cas on ouvrait notre gueule, parce que Sarkozy c'est pas le roi, et en tout cas c'est pas le roi de notre ville. Salut à tous.
Oui, bonjour Daniel. Alors, une petite pierre supplémentaire malheureusement à l'édifice sécuritaire de notre cher pays. Concernant le sommet de l'OTAN, effectivement, ils sont en train de faire la chasse aux banderoles, jusque dans les entreprises qui impriment ces banderoles, hein, puisque la police débarque et incite fortement à ce qu'aucune banderole contre OTAN ne soit produite et imprimée. Voilà. Bon, bah, c'est... une pierre de plus. Allez, merci pour tout ce que tu fais. Salut.
Oui, bonjour, c'est Greg dans l'Aveyron. Je viens d'entendre Sarkozy là nous faire un laïus sur la sécurité. Je voulais juste lui rappeler ce que nous disait Benjamin Franklin, cité par notre ami Ciné. Ceux qui sont prêts à sacrifier une liberté essentielle pour acheter une sûreté passagère ne méritent ni l'un ni l'autre. Voilà.
Bonjour, et bien moi aussi je voulais laisser mon témoignage comme les 500 000 autres environ suite à cette émission sur et ben nos amis les policiers qui nous emmènent à l'abri pour une nuit ou plus. Pour moi c'était ben en 2003, ça remonte quand même déjà. Mais je crois que effectivement c'est suffisamment traumatisant pour s'en souvenir longtemps. Et même si c'est pour des petites aventures pas bien graves, ça marque. Voilà, et ben je laisse la place aux 500 000 unième. À bientôt.
Bah oui, mais on l'avait prévu, on savait bien que notre boîte vocale était trop petite pour tous les messages que vous alliez laisser, et c'est ce qui s'est passé suite à l'émission d'hier, le reportage de Charlotte Perry sur les gardes à vue qui se multiplient à travers notre beau pays. 577 816 gardes à vue en 2008, plus 55% en 8 ans, comme quoi c'est pas tout qui baisse quand même. Il y a seulement le chômage qui monte et puis il y a aussi les gardes à vue. Il y a peut-être d'ailleurs un lien à faire entre les deux, entre cette insécurité sociale croissante et cette sécurité, c'est-à-dire le passage du social au pénal. On voudrait saluer les militants et les travailleurs de continentales qui sont dans leur autocar et qui sont en train de rentrer à Clairvoy. On sait qu'ils écoutent l'émission et donc on les salue. On les a entendus en début de ce bouquet de messages sur les Champs-Élysées. Ensuite, un message de Pau. Ensuite, à nouveau, la ronde des obstinés qui a commencé hier et qui tourne devant l'hôtel de ville à Paris, dans le premier arrondissement. Et puis, des échos aussi de Saint-Quentin, ça a chauffé pour les obstinés de Saint-Quentin et puis aussi pour les obstinés de Strasbourg qui préparent à leur façon le sommet de l'OTAN. Donc voilà, ça bouge pas mal dans ce pays, mais attention, attention à la garde à vue et attention à l'abus, garde à vue, c'est notre sujet du jour, deuxième volet. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, j'ai écouté l'émission du 24 mars sur les gardes à vue. Je peux vous apporter un témoignage sur ces méthodes parfois abusives et pas en rapport avec un délit. Il y a quelques années, ma sœur qui rentrait à pied d'une soirée entre amis, en discutant, a touché une voiture en stationnement. C'était une voiture banalisée de la police. Ma sœur, qui s'en est aperçue, a dit « Oh, une fliquette !» Elle s'est retrouvée, monotée, montée mani malitari dans le véhicule, laissant ses amis plantés sur le trottoir. Emmenée au commissariat, elle fut déshabillée, fouillée au corps, emmenée aux urgences de l'hôpital le plus proche pour une alcoolémie. Elle fut relâchée à 4 heures du matin, en plein Paris. Convoquée quelques mois plus tard devant le procureur, elle relate les faits. Le procureur l'informe qu'une personne témoin a écrit à la justice avec les détails de cette arrestation musclée. Il n'y a pas eu de suite, le procureur ayant constaté l'abus de pouvoir de la police. Continuez vos émissions que nous écoutons quotidiennement. Merci.
Oui, bonjour Daniel. J'ai écouté avec émotion le récit de cet homme humilié plusieurs fois par les cow-boys de la République. Avec émotion, oui, parce que moi j'ai vécu cette humiliation il y a 5 ans et demi à Chalon-sur-Marne. J'ai été menotté au radiateur du commissariat pendant 3 quarts d'heure. Par bonheur, j'ai échappé à la garde à vue, mais on m'a dit qu'on aurait pu m'y mettre. Et pourquoi tout ça ? Ben, un feu qui reste bloqué au rouge un soir que je rentrais chez moi. Alors au bout de 10 minutes, ça klaxonne derrière, tant pis, il y a une voiture qui passe et moi je la suis. Manque de chance, les flics m'ont vu et ils me coincent le long du trottoir. Et pourquoi m'arrêtent-ils ? Je voudrais qu'ils me le disent. Leur seule réponse, vos papiers. J'ai dit, d'abord vous me dites pourquoi vous m'arrêtez et après vous aurez les papiers. Pas de réponse, j'ai été extrait de la voiture, menotté et embarqué au commissariat sans aucune explication. J'ai pas pu me retenir de lâcher quelques phrases pas flatteuses dans le fourgon. C'était pas des injures, non, c'était des trucs du genre « c'est ça la police de Sarkozy » ou « j'aimerais pas être votre père », etc. Bien méchant, quoi. Et moi, petit retraité sans histoire, je me suis vu condamné au tribunal pour outrage à agent et franchissement d'un feu rouge et refus de présenter des papiers à, tenez-vous bien, 1700 euros d'amende, dont 300 à chacun des deux cow-boys. Vous voyez, la police et la justice, c'est main dans la main. Et ça se passait à Chalon-sur-Marne. Voilà. Au revoir.
Oui, bonjour. Un conducteur poids lourd. J'ai entendu votre émission d'hier sur les interpellations, les abus d'interpellation musclés. Moi-même étant fils de flic, comme vous avez dit de dire, ou fort de l'ordre, il est vrai que oui, il y a d'abus. Mais on m'a toujours conseillé, même si mon père m'a dit, si un jour tu te fais interpeller méchamment, on a des droits, il faut les faire valoir. Et donc, je conseille à tous ceux qui ont eu des soucis avec tout ça, ou même ceux qui sont interpellés dans la rue verbalement, je parle un peu méchamment, ils prennent le nom de la personne ou la plaque d'immatriculation, l'heure du véhicule, l'heure, et une lettre au procureur de la République. Le procureur de la République est obligé de vous répondre et de demander les renseignements en ce qui concerne l'acte du policier. Et lui, il devra rendre des comptes. Donc ne pas oublier ça, et surtout, ça va pas forcément, ça embêtera le policier simplement. Il sera obligé de rendre des comptes et de dire pourquoi il a dû agir comme ça. Il faut pas hésiter, car sinon, S'il n'y a rien n'est fait derrière, il n'y a pas de problème. Donc il ne s'agit pas non plus de s'écraser, comme disent les autres, parce que c'est trop facile. Mais ne pas hésiter à faire de lettres au procureur de la République, il est là pour ça. Bah, merci pour tes émissions, Daniel, et puis bah, continue surtout. Hein. Merci, au revoir.
C'est la déstabilisation, donc nous on ne savait pas quelle heure il était, on ne savait pas si c'était le jour, la nuit, on était dans une cellule où tout est jaune, il y a un néon au-dessus de notre tête, on ne peut pas dormir, le bruit des clés dans la serrure, tout ça c'est des choses qui sont gravées dans nos mémoires et qui sont complètement injustes.
Viens, s'il te plaît.
Ils m'ont mis à poil, ils m'ont fouillé entièrement, vraiment le truc complètement démesuré. C'est une attitude humiliante jusqu'au bout. Je crois que de toute façon, c'est fait pour ça.
On m'a attaché au radiateur. De là, ils m'ont démenotté. Ils m'ont fait mettre tout nu donc devant ses jambes, à me faire tourner pour bien m'humilier.
Quand, en 7 ans, on en est presque à doubler le nombre de personnes interpellées en France, alors qu'à la même période, on essaye de nous faire croire que la délinquance a baissé, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est cette politique globale, je veux dire, de la peur et de la suspicion qu'on vit tous. Enfin, moi, j'habite près de la mutualité. Samedi dernier, c'était transformé quasiment en bunker. Il n'y avait plus personne pour applaudir le gouvernement, hein, comme il y a quelques années. C'était simplement le désert. Vous aviez des policiers partout. Et moi, je devant le trottoir vide, je demande à un CRS, est-ce que j'ai le droit de marcher? Et il m'a répondu, oui, mais doucement. Et moi, comme tout le monde, je veux dire, je me sens suspect. Quand je vois un policier, maintenant, quand je vois 15 quarts de CRS dans la rue, ce qui est quand même relativement fréquent, je ne cours plus. Je marche doucement.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry. Garde à vue. À bas la vue. Flight number 2, arriving
from New York. Ça s'est passé à Mazamé, là, dans une petite ville du Tarn. On était avec ma copine et deux amis. On est parti manger au restaurant, dans un petit restaurant de la ville. Donc, on est sorti du restaurant fin de soirée, quoi. On avait très peu bu. On avait bu un pichet de vin à 4 et on rentrait chez nous à pied. On n'a pas fait 50 mètres, en fait, en sortant du restaurant, que tout d'un coup, alors que je tenais un ami par l'épaule en rigolant, là, une voiture de police s'est arrêtée subitement à nos côtés. Ils nous regardaient méchamment, donc moi, je me suis avancé vers la voiture de police et donc je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on s'amuse, on rentre chez nous. Et là, ils nous ont dit, nous, on n'est pas là pour s'amuser. Bon, tout de suite, j'ai senti que le ton montait. À ce moment-là, le policier qui était au volant est sorti de la voiture, a fait le tour de la voiture en courant, s'est littéralement jeté sur moi, m'a projeté sur le mur que j'ai heurté violemment, donc je suis tombé à terre. Il m'est tombé dessus, il m'a menotté et ils ont commencé à me rouer de coups, coups de matraque, coups de pied dans la tête. J'étais au sol avec ma copine qui hurlait, qui appelait à l'aide, mon ami pareil qui leur demandait d'arrêter. Ils ont pas arrêté, enfin je me suis retrouvé avec les deux arcades ouvertes, le nez qui pissait, la lèvre ouverte. Et donc là, mon ami, tout d'un coup, un des deux policiers s'est arrêté de me taper, s'est retourné vers lui, lui a demandé ses papiers. À peine il avait fini la phrase, qui lui mettait une énorme coup de poing. Ils se sont jetés ensuite sur lui, ils l'ont menotté aussi. On s'est retrouvé donc tous les deux dans la voiture de police direction le commissariat. Ils ont laissé ma copine traumatisée au milieu de la rue. Et donc dans la voiture, les insultes qui continuaient. Vous êtes que des déchets, tu pues la merde, tu nous pourris la société, espèce de José Boviste. Bon, ils me mettaient des coups de matraque avec la pointe de la matraque dans les côtes. Donc jusqu'au commissariat.
Et vous faites quoi dans la vie ?
La moitié de l'année, je suis maraîcher bio avec mon ami. Et l'hiver, je suis ébéniste, je fais de la restauration de meubles anciens. Enfin bon, là au commissariat, on m'a attaché au radiateur devant la cellule de dégrisement où il y a les gens qui ont bu, là, qui sont la cellule vitrée. De là, ils m'ont démenotté, ils m'ont fait mettre tout nu donc devant ces gens, plus 5 ou 6 policiers, à me faire tourner pour bien m'humilier. Et donc, suite à ça, j'ai été mis en cellule d'isolement. Tous les policiers de la relève sont passés pour m'insulter au hublot. Il y en a même certains qui m'ont craché dessus. en me disant t'as peur de flics et compagnie, alors que bon, j'aurais pas asséné un seul coup. Là-dessus, j'ai été interrogé le lendemain vers 11h et on m'a laissé sortir à midi à peu près du commissariat. Donc mon ami aussi qui était avec moi pareil, hein, était en garde à vue, il a subi à peu près la même chose en garde à vue quoi. Et ce policier, il fait des siennes régulièrement quoi. C'est une petite ville à Mazamet et nous on a pas mal d'histoires de gens qui ont été embêtés par lui. Bon, ça n'est jamais été jusque-là, mais c'est régulier. On a des amis qui se font contrôler sans avoir commis une seule infraction. Et ben c'est quand même les deux mains sur le capot et on vous fouille de la tête aux pieds sans plus de raison que ça quoi. Moi je sais que maintenant, dès qu'une voiture de police croise ma voiture à Mazamet, je me fais contrôler. Ils font demi-tour et me contrôlent. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, le commissariat de Mazamet a été mis sur la sellette, il y a un risque qu'il soit supprimé. Et en fait, enfin bon, nous c'est ce qu'on pense, hein, c'est qu'ils cherchent à faire du chiffre en garde à vue, donc ils provoquent même des altercations dans une ville où il se passe rien. Il faut être honnête, à Mazamet c'est vraiment très tranquille, on n'est pas du tout victime de l'insécurité. C'est une petite ville de campagne, sans problème, quoi. Nous, on a un café qui, ça fait 2 ans qu'il est ouvert, ça s'appelle Le Poétique. Et on a fait d'ailleurs un café repère de là-bas, si j'y suis, dans ce café. Et c'est vrai que bah, Le Poétique, c'est leur point. Ils attendent les gens qui sortent de là, parce que bon, c'est des gens un petit peu qui ont des idées, qui ont envie que ça change. C'est une bonne cible pour eux. Moi, j'ai ma copine qui travaille dans ce café-là. Elle a carrément des clients qui ne reviennent plus. Parce qu'ils ont été victimes d'un contrôle un peu violent à la sortie et qu'ils disent bah non, on met plus les pieds à Mazamet. Les gens ont peur des représailles tout simplement. Ils préfèrent rien dire, prendre sur eux et puis bon, voilà. Tant que ça ne va pas trop loin.
Ça peut vous arriver demain. Ouais, ça peut vous arriver demain comme c'est arrivé en 2008 à 577 816. Personne résidente en France et âgée de 13 ans et plus. Vous êtes en garde à vue, vous pouvez appeler un membre de votre famille et demander à voir un avocat. 577 816 personnes ont entendu ou en principe entendu cette phrase. Tous suspects, tous en trop, tous en sursis, c'est un peu l'ambiance générale actuellement dans notre pays. Évidemment, 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 c'est pas encore la nuit des longs couteaux, c'est pas encore le goulag. S'exprimer, aller, venir, protéger sa vie privée, les libertés fondamentales ne sont pas encore menacées dans leur existence en France, mais il y a ces chiffres qui sont là et qui sont ces gardés à vue. Eh ben, on l'entend à travers ces témoignages recueillis par Charlotte Perry. C'est des gens qui reviennent d'une manif, qui ont eu des mots un petit peu chauds avec la maison Poulaga ou avec un chef d'État qui visite un salon de l'agriculture quelconque. Bref, des petites anicroches, des petites histoires de cours de récré ou de bac à sable et qui finissent dans des ambiances tout à fait glauques et pathétiques et humiliantes et qui dénotent le progrès de l'État pénal sur l'État social. Alors, vous allez dire, je vous connais un peu, mais si, c'est de la faute à Sarkozy. Eh bien, oui, bien sûr, tout est de sa faute, c'est bien évident. Mais ça date pas d'hier, quand même, cette histoire, ce recours à la sécurité. On l'évoquait hier, en 1997, le Parti Socialiste parlait de la sécurité comme la première des libertés. Et en cela, alignait sa politique sur celle traditionnelle de la droite. Depuis, la gauche libérale, la gauche socialiste n'est pas revenue sur cette ligne politique. Et c'est très important. On a eu en quelques années, non seulement en ce qui concerne les gardes à vue, mais on a eu en ces dernières années une avalanche de lois visant à renforcer la sécurité quotidienne. Loi sur la sécurité quotidienne votée en novembre 2001. On a eu 5 lois générales qui ont renforcé les moyens de la police et de la justice pénale. 6 lois ont réprimé les faits particuliers, violences routières, chiens dangereux, etc. 3 ont tenté de contenir l'immigration. Nouveau terrain de liberté, c'est Internet maintenant qui est devenu un espace surveillé et on peut multiplier les exemples. Donc il y a de quoi se faire du souci. Aujourd'hui, l'insécurité sociale augmente dans ce pays. Le sentiment d'injustice n'est plus un sentiment, c'est simplement un constat lorsque l'on voit les parachutes dorés et autres stock-options dénoncés qui indignent les dirigeants de notre pays, mais qui ne font rien, qui n'appliquent aucune justice, le minimum de justice sociale par rapport à ces obscénités. J'entendais un responsable politique aujourd'hui parler de guerre économique. Et évidemment, ces violences symboliques, insécurité, injustice, etc., entraînent des violences réelles en retour. Violence contre soi-même, suicide par exemple, multiplication des suicides des salariés sur leur lieu de travail et évidemment violence contre l'ordre établi. Mais violence qui a du mal à trouver son expression politique étant donné la faiblesse de l'opposition actuellement dans notre pays. Donc on risque de voir la violence se multiplier. Des actes de violence se multiplier dans les rues ou bien comme on l'a vu en 2005 à travers des émeutes. Et ce que je vous dis là est tellement simple et tellement évident que ceux qui développent cette sécurité et cette répression le savent aussi bien, sinon beaucoup mieux que moi et autant que nous tous. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Là-bas, si j'y suis, garde à vue, à bas la vue.
Police, faux papier, contrôle d'identité, formule. Devenu classique à laquelle tu dois t'habituer seulement. Dans les quartiers, les condés de la mille peau. Toi, on trop pas baiser aussi. Sachez que l'air est chargé d'électricité. Alors, pas de respect, pas de pitié, escompté, vous aurez regret. Jamais par la répression, vous n'obtiendrez la paix. La paix, la paix de l'homme, le respect de l'homme. Mais cette notion d'humanisme n'existe plus quand il passe l'uniforme. Préférons au fond la forme, peur du hors norme. Pire encore, si dans leur manuel ta couleur n'est pas conforme. Véritable gang organisé, hiérarchisé, protégé sous la tutelle des hautes autorités. Bord d'armes autorisées malgré les valeurs énoncées. Comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancée. Souvent mentalement retardé. Le portrait type, le prototype du pauvre type. Voilà pourquoi dans l'excès le zèle ils excellent. Voilà pourquoi les insultes de fusquent en passe les hirondelles. Pour notre part ce ne sera pas mais en spécial nique ta mère de la part de la mère patrie du fils.
Police, machine matrice, desserve les mandats. Police, par la justice, machine sur laquelle je tisse. Les mandats par la justice sur laquelle je pisse.
Aucune représentative de l'entière populace. Que dois-je attendre d'un des flics qui pour moi ne sont signe que d'emmerde. Regarde, je passe à côté de tranches de con devient nerveux.
Oh, contrôle de police, monsieur.
Systématique et la façon dont l'histoire se compris. Pas le bon mes poches, plus me presse sans les balles. Ne m'accordant aucun reproche à part le fait de passer proche. Partant à tenter la gamage.
Traquer les keufs dans les couloirs du métro. Tels sont les rêves que fait la nuit, yo, idiot. Donne-moi les balles pour la police municipale.
Encore une affaire étouffée, un dossier classé rangé. On va fondre un tiroir dans un placard, ils vont l'arranger. Car l'ordre vient d'en haut, pourri à tous les niveaux. Ça la fout mal, un diplomate qui business la penneau. Alors on en perd, on oublie, faux témoignages à l'appui. Pendant ce temps, des jeunes béton pour un bloc de Toshi. Malheureusement, j'entends dans l'assistance.
Écoutez-moi, j'ai confiance.
Confiance en qui, la police, la justice, tous des fils. Corrompus dans l'abus, ils puent. Je préfère faire confiance au moins de ma revue. Pas de temps à perdre en parole inutile. Voilà le deal du grand, les forces de l'ordre. Un peu moins de désordre.
Police, machine matrice, desserve les mandats. Par la justice sur laquelle je pisse. Les mandats par la justice sur laquelle je pisse.
Nique la police.
Jean Danet, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Je suis avocat honoraire et j'ai présidé le syndicat des avocats de France. Il y a une augmentation des gardes à vue qui ne date pas d'ailleurs de ces dernières années, mais il faut reconnaître que sur les dernières années, il y a une croissance très importante des gardes à vue, puisque de 2001 à 2007, on passe de 336 000 à 562 000 gardes à vue, soit 67% de plus en 6 ans. Il est bien évident que sur les 6 dernières années, ce n'est pas l'augmentation de la délinquance qui peut évidemment expliquer les 67% de garde à vue en plus. Il faut bien qu'il y ait des éléments qui sont internes au système et qui expliquent ce recours à la garde à vue beaucoup plus important qu'autrefois. Alors, la police et la gendarmerie sont évalués depuis quelques années et ils sont évalués sur des critères quantitatifs. L'un de ces critères quantitatifs, ce sont les gardes à vue. Et selon ce que nous disent un certain nombre de policiers, la tentation est grande de devoir recourir parfois un peu artificiellement à la garde à vue, de devoir procéder à des placements en garde à vue pour ne pas encourir les foudres de la hiérarchie. Alors, le problème, c'est que nous sommes en France dans une situation où, tout de même, le gardé à vue a des droits extrêmement limités, et notamment, il n'est pas assisté d'un avocat. Les gardés à vue vont avoir droit à rencontrer un avocat, mais cela va être une rencontre extrêmement limitée, d'une demi-heure. L'avocat n'a pas accès au dossier, et l'avocat ne pourra pas rester au-delà de cette demi-heure et ne pourra pas assister le gardé à vue pendant qu'il est interrogé par la police. Et je crois que c'est évidemment là que les choses peuvent être dangereuses. Alors que dans de très nombreux pays européens, aujourd'hui, évidemment, le gardé à vue est assisté d'un avocat du début à la fin de la garde à vue.
Pourquoi un comportement souvent agressif des policiers et le recours à l'humiliation ?
Je crois qu'il y a à la fois un problème de culture, une police qui sait que la garde à vue est un espace, un temps où elle est seule à bord. Il y a derrière un problème de contrôle par l'autorité judiciaire, et on sait bien que la justice n'a pas véritablement de pouvoir de contrôle sur la police et la gendarmerie. Et il y a aussi un problème d'époque, c'est-à-dire que évidemment, quand on est dans une époque où, d'une manière non seulement nationale, mais internationale, se tient tout un discours extrêmement sécuritaire, il est bien évident que ce discours sécuritaire peut lever des inhibitions et laisser penser qu'on peut en prendre à son aise avec les droits des gardés à vue, qui sont aussi des droits de l'homme.
Attends, j'arrive tout de suite. Alors, tu m'as dit... Il est parti, je veux dire.
Oui.
Mets-moi une deuxième juste. Impeccable.
C'est les deux gars qui sont sous le banc là-bas qui a ramené.
Ouais.
Qui sont certainement en avant.
Il y en a qu'un qui est sous le banc.
L'autre, il est enfoui.
Ok, ça va. Là, c'est moins de gavé, les deux.
Voilà. Certainement BNA d'abord. Hein.
Ok.
C'est quasiment sûr. T'as un dégrisement.
Alors BNA. Du dépôt BNA, puis Gav.
Gav. Gav. Et Gav. Et garde à vue. Ça veut dire garde à vue. Gav. Vous voyez le langage quotidien dans un commissariat du coin de la rue, tout va bien. N'empêche que, voilà, un Français sur 100, cette année, fera un petit passage en garde à vue dans ce doux pays qui est le nôtre. Alors, bien évidemment, ce que nous dit Jean Danet, avocat, enseignant, chercheur à l'Université de Nantes, c'est qu'il y a des lois, quand même, dans ce pays, et toute cette opération de la garde à vue doit se faire sous contrôle, sous le contrôle de qui donc ? Eh bien, des magistrats du parquet. Le procureur dit la loi doit être informée dès le début de la garde à vue, c'est-à-dire que le policier doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir le magistrat du parquet, et lequel a le devoir de visiter régulièrement tous les lieux où des personnes sont retenues. Mais que le flic de base se rassure, il s'agit d'un texte qui sert juste à amuser les étudiants en droit. C'est ce que dit le Canard Enchaîné dans un dossier consacré à la garde à vue en France. Ce qu'il faut savoir également, une petite information sur cette histoire de garde à vue, c'est que selon l'ancien président de l'Union syndicale des magistrats, eh bien, le nombre des personnes condamnées n'a pas augmenté. Hein, le nombre de gardes à vue a augmenté, mais le nombre des personnes condamnées n'a pas augmenté. Ce qui signifie que beaucoup de ceux qui ont été placés en garde à vue n'avaient commis aucune infraction. Et en voici à nouveau la preuve.
Je venais en vélo chercher de la viande chez mon boucher et j'ai tourné à droite dans une petite rue qui est en sens unique, que j'ai pris donc en sens unique sur le trottoir sur environ 5 mètres, mais pour me garer. Et à ce moment-là, à l'angle et au feu, est arrêtée une voiture de police. Ils m'ont signalé qu'il fallait que je descende de mon vélo. Et donc, je leur ai répondu très poliment, immédiatement, mais ne vous inquiétez pas, je descends, je me gare juste. Pendant que j'étais en train de fermer mon cadenas, deux policières d'environ 25 ans sont arrivées, ont très désagréablement parlé en me demandant pourquoi je n'avais pas obtempéré. Alors moi j'étais très surprise, donc je leur ai dit bien sûr que si, j'ai obtempéré puisque je suis en train de me garer. Et ils ont commencé à m'agresser un petit peu en me disant d'abord madame, quand on parle à des policiers on dit bonjour, on est poli en me parlant, mais vraiment comme un chien. Moi ça fait 15 ans que je suis enseignante, j'ai jamais parlé une seule fois comme ça en 15 ans d'enseignement à aucun élève. Au bout de 10 minutes je leur dis écoutez c'est ridicule cette histoire, mettez-moi ma contravention parce que j'ai roulé sur le trottoir si vous voulez. Le ton montait, mais alors vraiment, enfin, c'est-à-dire que là je m'exprime calmement, mais le ton, elles étaient en train de hurler dessus. Enfin, de toute manière, on ne va pas seulement vous mettre une contravention parce que vous avez roulé, on va vous mettre une contravention parce que vous avez refusé d'obtempérer. Ce à quoi je leur réponds, c'est faux, donc je contesterai. Ah mais ça y est, mais vous nous insultez, mais qu'est-ce que vous racontez? On peut vous mettre en garde à vue, 48 heures en garde à vue. Alors, présentation de papier, sentez-moi vos papiers d'identité. Alors évidemment, j'avais pas mes papiers. Et donc là, je dis, bon, bah, très bien, je vais venir au poste avec vous. Et à ce moment-là, je sors mon portable en disant, je vais appeler mes enfants pour les prévenir. Donc mes enfants qui sont petits, qui avaient 9 et 11 ans à l'époque, et à qui j'avais dit, je descends un quart d'heure au coin de la rue chercher de la viande et je remonte. Je sors mon portable de ma poche. Et à ce moment-là, donc il y en a une qui me dit, mais vous n'avez pas le droit de sortir votre portable. Et l'autre me prend mon portable des mains, me l'arrache, me le balance par terre. Et on était donc sur le petit trottoir là. Ah bah, exactement, là il y a une voiture de police là. Comme ça, même situation là. Au secours. Je ne peux plus les supporter là. Et à ce moment-là, donc, elle me retourne, elle me plaque au mur. Je vous montre, hein. En me faisant une prise de karaté, donc en me tordant le bras et en m'appuyant donc sur les genoux pour pas que je bouge, je me suis retrouvée collée comme ça à la vitre, enfin non, au mur plus exactement, avec le bras complètement tordu, donc elle me faisait très très mal au bras droit. Dans l'agitation, elle m'avait relevé mon pull là, sous le soutien-gorge, alors qu'il y a les trois quarts de mes élèves qui passent en permanence. Bon, là-dessus, donc elles m'ont traînée, hein, traînée, parce que je marchais, mais enfin c'était je te pousse et je te traîne d'une manière un peu violente. Déjà, elle m'avait extrêmement serré les menottes. Donc tout de suite ça m'a fait extrêmement mal, donc elles me les ont mises comme ça dans le dos, hein, je pouvais pas bouger. Ils m'ont mis dans la voiture, donc moi je criais, je disais je veux appeler un avocat. Mais qu'est-ce que tu crois qu'on va appeler un avocat? Et puis surtout j'ai commencé à leur dire non-stop, mes enfants sont tout seuls à la maison, s'il leur arrive quoi que ce soit, parce que pendant tout ça elles m'ont dit on t'embarque en garde à vue et on te garde 48 heures. Moi c'est ce qu'elles m'ont dit. Donc alors c'est vrai que ça paraît disproportionné que j'ai pu croire ça, mais dans une situation qui pour moi était complètement délirante, que je n'avais jamais affrontée, et j'ai été extrêmement inquiète là-dessus. Sirène quand même, sirène comme un grand délinquant. Mais les sirènes, on grille tous les feux rouges pour moi. On arrive donc au commissariat du 5e. Donc là ils m'ont laissé, puis au bout d'une demi-heure, ils m'ont fait monter dans un bureau. Et là, donc, le monsieur s'assied, c'est bon, il commence à me prendre ma déposition. Et à la fin, il sort ma déposition, il me la donne en me disant, voilà, madame, vous allez relire votre déposition, vous allez la signer, et puis vous allez pouvoir rentrer chez vous. Je commence à lire les trois premières phases de la déposition, et là, malgré la situation angoissante, je me mets à rire, parce que c'était comique, quoi, c'était comique. C'est-à-dire que tout était transcrit de telle manière, dans ma propre déposition, qu'on ait l'impression que c'était moi qui avais pété un câble, qui était complètement hystérique, et que les policières, elles, avaient très sobrement et calmement fait leur métier en face de quelqu'un qui avait pété un câble. Bon. Je voulais faire changer chaque phrase, parce que aucune phrase ne correspondait à ce que j'avais dit, en fait. Donc la porte du bureau à côté était ouverte, là où le commissaire était. Et à ce moment-là, il sort, et là, il dit, non mais qu'est-ce qu'elle a à nous emmerder, celle-là? Non mais allez, foutez-la moi au trou, là. Elle va faire 48 heures de garde à vue, elle va arrêter de nous faire chier. Et puis elle va la signer, sa déposition. Et moi, je le regarde, mais effaré, voyant donc la menace, hein, je sais pas, c'est de l'abus de pouvoir, la pression. Donc à ce moment-là, je dis très bien, bon, en plus, ne connaissant pas bien mes droits,
Donc, ne sachant pas que j'avais le droit à ce que j'ai appris après de quitter le commissariat sans signer ma déposition, j'aurais pu revenir ultérieurement la signer, j'ai dit très bien, donnez-moi ma déposition, je signe. Et à ce moment-là, la policière, une des deux, celle qui était la moins virulente, est venue m'apporter donc trois contraventions. Une pour avoir roulé sur le trottoir en vélo, une pour refus d'obtempérer et une pour cris et vociférations sur la voie publique. Ça fait un an, ça m'a traumatisée cette histoire, mais complètement. Je voyais un policier sur le trottoir, je changeais de trottoir. C'est-à-dire que la police était devenue un danger pour moi. Un danger. Ça m'est arrivé d'être en voiture, de vouloir me garer, que des policiers soient sur le trottoir et que je continue à faire le tour trois fois du quartier pour pas avoir à me garer devant eux. Enfin, ça devenait un point. Voilà, j'avais peur de la police.
Viens, s'il te plaît.
Je suis allée porter plainte à l'IGS. J'ai attendu en continuant de raser les murs. 6 mois après, environ au mois de mai, ça c'était au mois de novembre, j'ai reçu un courrier m'indiquant que ma plainte était classée sans suite. Et là, un an après les faits, je reçois un courrier m'indiquant que environ 10 jours après, j'étais convoquée au tribunal pour outrage à agent, insulte à agent et coups et blessures sur agent. La procureure, dès qu'on est arrivé, on s'est installé, elle nous a fait asseoir. Elle a dit, bon, alors avant de commencer, je vais dire une chose. Dans 99% des cas, je défends les policiers. Mais là, c'est totalement inadmissible. Et donc, à la fin, la procureure a conclu en disant, je vous dis quand même, vous risquez 7 500 € d'amende et 3 mois avec sursis, quand même, de prison, pour ce que vous avez fait. Elle dit, il est évident que je ne retiens aucune charge contre vous. Et les policières, elle leur a demandé de s'excuser pour m'avoir traité de cette manière-là, mis les menottes. Moi, je lui ai demandé si on devait se laisser traiter n'importe comment et subir de l'abus de pouvoir sous prétexte que la fonction de policier était une fonction d'État qui justifiait le respect. Alors là, elle m'a expliqué que je dois l'accepter dans la mesure où c'est sa fonction de policier qui fait que moi, je dois le respecter en face.
À force de contrôle, à force de patrouille, à force de fouille, de flic qui te jauge, te juge, te transperce, te toise, te suspecte, te fiche, te classe, te statistique. Sur nos pattes de derrière, nous irons faire le beau, présentant nos papiers dès que passe un corbeau. L'ombre d'une casquette, le vol d'un perdreau. Le jour et la nuit, partout où l'on vit, dans les rues, sur les routes, partout où l'on va, on finira un jour par être ce qu'ils veulent, des moutons numéros qui ferment bien leur gueule. Sur nos pattes derrière, nous irons faire le beau, présentant nos papiers dès que passe un corbeau. L'ombre d'une casquette, le vol d'un perdreau.
Oui, je suis Pierre Loret, et je suis donc professeur de philosophie et chercheur. Et je fais notamment partie d'une association qui s'appelle Unis contre une immigration jetable 19e-20e.
Je suis Yves Cusset. Je suis professeur de philosophie, donc en congé cette année. Nous nous rendions donc avec mes collègues Pierre Loret et Sophie Foch-Rémusa à Kinshasa pour un colloque de philosophie qui s'intitulait « Culture du dialogue et passage des frontières ». On nous a distribué à l'embarquement une petite notice nous prévenant qu'il y avait donc une reconduite à la frontière et que c'était une décision légitime de l'État français, légitime étant souligné, et que si on s'opposait à cette décision, on risquait un certain nombre de peines. En gros, si on cumule tout, je crois que ça doit faire 8 ans de prison et 70 000 euros d'amende.
Eh oui, et n'empêche, vous avez entendu, il n'y a pas que des racailles hein, dans la base, si j'y suis. On vous amène du linge, hein, philosophe, chercheur, collège international de philosophie, etc. Alors, mais il arrive quand même que les chiens de garde soient tentés de mordre la main qui leur tend des hochets symboliques, et qui ont très bien compris, mais qui ne disent pas tous que la croissance économique est telle qu'elle est absente ou telle qu'elle est promise et qu'elle ne vient pas dans nos pays est génératrice évidemment d'inégalités et d'insatisfaction, et donc le pouvoir d'État, je le disais autrement à l'instant, doit se préparer à réprimer les manifestations de mécontentement qui ne vont pas manquer de se développer avec la crise actuelle qui ne peut que renforcer cette tendance, tant il est vrai que rien n'est pire qu'une société fondée sur le travail alors qu'il n'y a pas de travail, ou qu'une société fondée sur la croissance économique alors qu'il n'y a plus de croissance économique. Tout ça est générateur de violence, et la violence étant le monopole de l'État et non pas des bandes de citoyens que nous sommes, eh bien voilà pourquoi nous ne pouvons, dans les temps qui viennent, que de prévoir une augmentation, comme le faisait François Béranger à l'instant, à son époque, une augmentation des moyens de répression, de sécurité et de contrôle généralisé des populations et des corps. Voilà ce qui est arrivé, en tout cas, à ces chercheurs et autres philosophes.
Tous les trois, on a dit, bon, on va au moins aller questionner les policiers sur la présence de sans-papiers menottés à l'intérieur de l'avion. On a demandé ce que ces gens faisaient là, et les policiers nous ont demandé de bien vouloir aller nous asseoir, et nous ont dit qu'ils étaient prêts à discuter, mais une fois que l'avion aurait décollé. Ah, donc on a, selon les termes employés par la police, j'irais pas obtempéré, c'est-à-dire qu'on s'est pas assis, et qu'on a dit que nous, on voulait savoir maintenant. Notre insistance a conduit d'autres passagers à réagir et à s'étonner eux-mêmes de la situation. Et bon, les policiers étaient sur la réserve. Bon, finalement, au bout de 20 minutes, voyant qu'il y aurait peu de chances que sans-papiers soit débarqué, on est allé se rasseoir ainsi que les passagers qui s'étaient levés. Et puis voilà, on s'attendait à ce que l'avion parte, on était tous rassis.
Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le commandant de bord est venu me demander de débarquer. Et comme tout était calme, j'ai trouvé que c'était arbitraire, j'ai refusé, et donc il a fait appel à la police. Alors, en fait, actuellement, moi, je suis sous le coup de poursuites judiciaires, c'est-à-dire que je vais comparaître devant un procureur pour opposition à une mesure de reconduite frontière et entrave à la libre circulation d'un aéronef. Donc ça veut dire que, en fait, je suis considéré comme ayant fait des délits. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que tout ce qu'on a fait, c'est en fait de poser des questions aux policiers. On n'a ni appelé des gens dans l'avion à faire quoi que ce soit, ni protesté même contre ce qui se passait. Et donc, vous pouvez être mis en garde à vue pour avoir posé des questions à un policier, parce que dans certains cas, c'est considéré comme un délit. Alors, j'ai été débarqué d'une manière quand même brutale, c'est-à-dire que on m'a sorti de l'avion de force, on m'a menotté sur la passerelle, sur une procédure où on vous plaque contre le sol, donc c'était le caillebotis de la passerelle, ce qui fait que j'avais le visage complètement en sang. C'était un peu spectaculaire, si vous voulez. Il aurait évidemment suffi de me demander de mettre les mains derrière le dos, puis de me menotter, ça aurait été amplement suffisant. Dans mon cas, j'ai été libéré relativement vite, c'est-à-dire au bout de 6-7 heures de garde à vue, parce qu'il y a eu énormément d'interventions. Notamment, le député maire du 19e arrondissement a fait une intervention auprès du ministère de l'Intérieur. Il a dit que c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un militant associatif très connu et très sérieux.
Donc vous avez été débarqué tout de suite de l'avion, et pour vous, qu'est-ce qui s'est passé ?
Voilà, on était convoqué par le commandant de bord pendant le vol, et il nous a quand même menacé de nous livrer à la police congolaise, avant de décider finalement, visiblement, de porter plainte simplement auprès de la police française qui est venue nous cueillir au retour. Et ils l'ont fait. Ils nous ont mis en garde à vue, ils nous ont gardé longtemps, et le but était très clairement de nous intimider et de nous garder le plus longtemps possible, afin de nous intimider. On est fouillé, on est en cellule, on n'a rien en cellule, hein, rien du tout, hein, on peut même pas lire un livre, hein, il faut juste attendre. Là, j'étais assis par terre avec trois camarades de cellule, dont deux allaient être expulsés. C'est tout petit, ça commençait à sentir mauvais. D'ailleurs, le policier soulignait que ça sentait mauvais. Et moi, j'étais vouvoyé, le policier tutoyait les autres. J'ai fait 11 heures de garde à vue, c'est épuisant. Et puis, je dois être convoqué. Je vais peut-être pas être poursuivi. Bah, pourtant, j'ai été. La plainte était pour outrage et menace à agent de la force publique et opposition à une mesure de reconduite à la frontière. Hein. J'ai été menacé, mais moi, j'ai pas menacé. Mais ça se renverse aussi. Mais je pense qu'il n'y aura pas de convocation. parce que leur intérêt est que cette affaire soit enterrée. Encore une fois, invisibilisation de cette politique. Et la mise en garde à vue, c'est une exception au droit. C'est un moyen de suspendre nos droits et d'avoir un corps qui est mis à la disposition de la police. C'est ça la garde à vue. Et cette politique, elle veut fonctionner de cette manière-là, en agissant de manière exceptionnelle. La justice, ça a été à beaucoup d'époques de l'histoire de France où il y a eu des délits d'opinion et où la liberté d'expression était menacée. Comment on faisait ? On passait par la justice, au fond. C'est, hein, c'est un moyen de créer artificiellement un espace public, hein, à l'aide du droit, et c'est l'un des meilleurs moyens de le faire. Donc, en un sens, c'est pour ça que je disais, moi j'ai peur qu'ils n'enterrent cette affaire, alors qu'il n'y a pas de raison. Ils ont mis en garde à vue, on est poursuivi. Moi, je ne veux pas qu'ils enterrent l'affaire, parce que maintenant, c'est à moi de demander des comptes.
Allez, ils nous carottent, donc carottes, on les un petit coup par ici.
C'est pas cher.
On se perd par champion.
On grignote à notre pouvoir d'achat, grignotant leur marge excessive. Ils nous carottent, carottonnez.
C'est vous allez nous. Ouais, je suis Charlotte.
D'accord, bonjour. Alors, là, on est au champion du centre commercial de la place d'Italie, avec les nouveaux précaires affamés du NPA qui organise une redistribution de nourriture payée par les actionnaires pour protester contre le coût de la vie prohibitif, la crise qu'on essaie de nous faire payer mais qui n'est pas la nôtre, et exiger des prix plus bas sur les biens de grande consommation et un autre partage des richesses, bien entendu.
Et voilà ce que c'est vraiment le NPA, c'est les nouveaux précaires affamés qui font de la redistribution primitive des richesses. Vous le saviez, mais peut-être pas assez.
Moi, je suis Xavier Renoux du collectif Les Désobéissants et on donne des coups de main quand la cause nous semble juste.
Et t'as remarqué une plus grosse répression des militants politiques, des mouvements contestataires depuis un certain nombre d'années ?
Oui, oui, oui. La surveillance progresse. Les tests de répression se multiplient. Nicolas Sarkozy n'est pas complètement stupide, donc il ne va pas trop vite. Il va vite, mais il ne va pas trop vite. Mais il fait des tests en permanence de répression. Il envoie des policiers avec des chiens dans un collège. Il prélève l'ADN même en dehors du cadre légal qu'il a lui-même défini, etc., etc. Et tout ça permet de voir comment l'opinion publique réagit si elle accepte la levée des tabous, la levée de la chasse à l'enfant dans les maternelles, la levée du prélèvement biologique pour d'autres catégories que les seuls violeurs et terroristes, l'application du concept de terrorisme à des ultra-épiciers du centre de la France. Donc on est dans une logique de répression qui croît, évidemment, mais une répression suffisamment fine pour vérifier que l'opinion publique est prête à l'accepter. Et c'est encore notre garantie, l'opinion publique ne semble pas complètement prête, heureusement, à l'accepter. Je parlais de tests tout à l'heure. Je crois que tous les dispositifs mis en place contre les étrangers, les camps de rétention pas accessibles aux journalistes, le musellement de la Croix-Rouge, sont des tests, là encore, d'acceptation sur une population extrêmement vulnérable qu'on risque bien d'étendre à toute la planète contestataire un jour ou l'autre. Alors clairement, la garde à vue est utilisée maintenant comme un objet de chantage pour nous faire craindre la répression et pour nous faire taire, très concrètement. Les statistiques montrent qu'elles ont explosé, ces gardes à vue. Et les gardes à vue qui pourraient être d'une heure à deux heures, trois heures, quatre heures, le temps de prolonger éventuellement une audition commencée dans le régime du contrôle d'identité, aujourd'hui, elles vont jusqu'aux 24 heures limite, voire sont renouvelées, pour vraiment punir aussi le militant d'être un militant. Évidemment, on est dans un mouvement de criminalisation des luttes sociales. Quelque part, c'est logique. Les riches se défendent, les puissants se défendent d'une contestation qui progresse. En même temps, nous, on se prend de plus en plus de coups et donc on est de plus en plus nombreux à protester. Donc effectivement, on est dans un bras de fer qui continue et comme à toutes les époques, l'État et les gens qu'il défend, eh bien, utilisent la répression pour empêcher le partage des richesses parce que c'est le véritable enjeu, évidemment. Ils sont bas, maintenant ils sont là, mais ils étaient à l'extérieur.
Non, ils étaient dedans, il y avait quatre flics en civil.
La police était là, mais ils n'interviennent pas.
Écoute, je leur ai parlé, ils attendent les ordres. Et donc tant qu'ils n'ont pas d'ordre, ils sont un peu coincés. les médias nous protègent. Le fait aussi que notre action ne soit pas destructive, soit pas violente, qu'il n'y ait pas véritablement de vol, puisqu'on ne part pas avec de la marchandise, que ce qui est consommé sur place soit en partie issu de produits frais. Et puis il y a un article de loi qui autorise les clients à déguster, à goûter en fait les produits frais dans les magasins. Bref, on joue sur une ligne assez fine qui permet d'éviter les dégâts. Maintenant, on ne sait pas si l'enseigne ne va pas porter plainte par la suite. C'est arrivé une fois, c'est toujours possible, mais c'est pas bien méchant là encore.
C'est pas à nous de payer leur crise. C'est pas à nous de payer leur crise.
Carottes,
on l'est.
Ouh là là, alors là, là il y a la police qui arrive, qui commence à nous courser. Ça se passe toujours comme ça?
Non, là, qui nous course, c'est n'importe quoi. Normalement, ils nous encerclent. En fait, ils essaient de nous intimider, en fait. Pour qu'on arrête de faire ces actions, que ce soit au niveau du logement, ou au niveau des stagiaires, au niveau de la consommation. Ils nous envoient les flics. Ils nous font rien, ils font juste une déposition, mais on n'a pas envie de perdre du temps encore à être coincé pendant plus d'une demi-heure, voire une heure, à pas pouvoir partir et ensuite à se faire disperser. Sur les 5 dernières actions que j'ai faites depuis le début de l'année, c'est la 3e fois qu'il y a les flics qui se pointent. C'est-à-dire les nouveaux militants vont avoir peur. Nous, on sait que c'est que de l'intimidation, en fait. Et en même temps, là, ils peuvent plus vraiment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en choper un ou deux. Soit ils nous arrêtent quand on sort, mais ils vont pas nous courser dans toutes les rues de Paris. Je veux dire, on a fait ce qu'on avait à faire. On a dénoncé des profits ignobles sur le dos de ceux qui gagnent le moins. Et voilà, on rentre chez nous.
Bonjour.
Vous restez là-bas, s'il vous plaît.
Pardon?
Vous restez là, s'il vous plaît.
Vous vous mettez à 5 pour encercler une nana?
Non,
ils sont journalistes.
Oui, ils sont journalistes.
Donc en fait, eux, vous allez les laisser passer. Et moi, vous allez m'encercler à 5. Je vais aller en garde à vue. Oui, bah oui, juste une vérification. Pourquoi vous me courez après depuis 500 mètres? Vous êtes à 20, je suis seule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 ou 7 quarts avec 3 jolies mobilettes. C'est pas juste pour trois couillons qui ont bouffé des trucs dans un supermarché, je veux dire, excusez-moi, mais non.
Si.
Bah, dites-le au contribuable, alors.
Ouais, c'est bien reçu, TL.
TL 330.
Ah, je vais me faire interviewer.
Bah ouais, si vous vous acceptez de répondre.
J'en ai des choses à dire. Un jour, il faudrait que vous fassiez une émission sur la police. Il y a quelqu'un qui a un stylo?
Par contre,
je vais demander de mettre fin à l'interview, merci. Je vais juste prendre votre identité, juste une personne.
Bon, rappelez l'individu gentiment au niveau du parc pour faire le contrôle,
ça fait ça. Ouais, sinon ça prend deux petites minutes, hein, TL, on est bien sur place, ça prend deux minutes et on revient. Ce sont deux journalistes qui ont toutes les accréditations nécessaires, qui travaillent pour Radio France. Négatif, hein, il s'agit d'une passante qui avait rien à voir, qui a interviewé à la suite, mais il y a...
Ouais, c'est bien reçu.
T'es 431,
le dernier
chemin,
c'est reçu.
Bon, voilà, on peut y aller. Bon. Vous avez compris un peu le sens de la manip?
On a compris le sens de la manip.
Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À vous, bonne continuation. Si vous voulez venir interviewer des policiers, n'hésitez pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auront des choses à dire.
C'est vrai que c'est nouveau. Moi, il m'a demandé ce qu'on faisait et pourquoi on les faisait. Il disait qu'on avait raison, en fait. Ils ont dit que j'étais une passante.
Une passante, absolument.
Ils m'ont protégée, en fait. Ils ont dit à leur supérieur que j'étais juste une passante, alors qu'effectivement, j'étais une militante. Donc, ouais, c'est bien.
Vous avez demandé au procureur de vous présenter à nous 01 56 40 37 37, amis policiers, chers amis, chers camarades. Le répondeur de la base, si j'y suis, vous êtes ouvert pour dire tout ce que vous avez envie de dire. Alors là, on ne demande que ça. Et on court tout de suite avec nos micros pour recueillir vos témoignages et tout ce qui ne va pas dans votre boulot. En tous les cas, merci à tous et à toutes. C'était un reportage de Charlotte Perry, Jean Danet, Serge Pontelli, Xavier Renaud, merci. Merci aussi à Pascal Pascariello. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Vous pouvez le faire également
sur labas.org, la-bas.org, même jeu. On peut réécouter et on peut faire des commentaires. À la technique aujourd'hui, Yvine Caron et Vincent Godard, Koyen Guyen et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perriand-Corel et Agnès Lebot. Attend vos messages. Alors encore une fois, amis policiers, chers amis policiers, allez-y. C'est le 01 56 40 37 37 01. 56, 40, 37, 37. Une dernière chose. Chomsky et compagnie sera projeté jeudi 26 à 20h30 au Cinéville à Conflans Sainte-Honorine, figurez-vous. Alors, c'est organisé par la Ligue des droits de l'homme, suivi d'un débat avec Quillon, avec Daniel Mermet. Extraordinaire, non ?